Mesdames, Messieurs, nous allons aborder notre troisième conférence. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent ce temple maçonnique. Jean-Philippe Jaworski, vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous enseignez actuellement à Nancy dans un lycée fort connu du centre-ville, le lycée Notre-Dame-Saint-Sigisbert. Vous collaborez au magazine Casus Belli. Vous avez créé Tiers Page, un jeu de rôle gratuit sur la Terre du Milieu, et Tédéum pour un massacre, un jeu de rôle historique sur les guerres de religion. En 2007, un éditeur ose publier Janua Vera, un recueil de nouvelles de fantasy, a priori voué à un simple succès d'estime. Un site internet de passionnés d'imaginaire aura raison avant tous les autres et vous décerne son prix annuel, le prix du cafard cosmique, 500 €.
Mais j'en suis très fier.
Je comprends. Actu science-fiction, le site d'imaginaire le plus fréquenté du net. Seul aussitôt l'alerte. La plupart des professionnels laissent dire, mais entre-temps, le bouche-à-oreille a fait son office. Et en moins d'un an, le tirage est épuisé. Aussitôt, Gallimard décide de le rééditer dans sa célèbre collection de poches Folio. Gagner la guerre, votre premier roman, va laisser sans voix presque tout ce que la critique française compte encore de compétences. Les lecteurs de Janua Vera, déjà conquis, vont retrouver le personnage de Benvenuto Gesufal, tueur à gages chimiques et habile, devenu un narrateur particulièrement bien placé pour nous révéler les intrigues et les crimes qui se nouent dans chaque grande famille de Ciudadia, la capitale du vieux royaume. De même que Janua Vera, le recueil qui inaugure ces passionnants récits du vieux royaume, Gagner la guerre, impose une incroyable machine fictionnelle où tout s'agence comme à la manœuvre. Style impeccable, sens de la narration, capacité à enchaîner les rebondissements, maîtrise totale du dénouement et une incroyable érudition. Les coups de théâtre s'enchaînent alors, révélant aussi une construction exemplaire. Coup de cœur des Imaginales 2009. Jean-Philippe Jaworski était au sommaire de l'anthologie du Festival 2009 Rois et Capitaines, comme il sera à celle de 2010 Magiciennes et Sorciers, une occasion de retrouver encore de nouveaux récits du vieux royaume. En 2014, vous recevez à nouveau le prix Imaginal du meilleur roman francophone pour votre roman Même pas mort, premier volume d'une trilogie 7. Enfin, je crois que vous êtes aussi passionné d'archéologie. Jean-Philippe Jaworski, nous allons vous écouter avec attention et en espérant que cette évasion à écriture mythopoétique, le thème de votre conférence, va laisser s'entrouvrir la vraie porte qui est, je crois, la traduction de Janua Vera. Vous avez la parole.
Merci de m'accueillir au temple. Merci pour cette présentation très élogieuse. Je vais tout de suite la démystifier. À mon sens, mon intervention va être décevante. Je pense que je suis l'intervenant futile de l'après-midi. L'écrivain de fantasy. Celui qui écrit des histoires de nains, d'elfes, de nécromants, des choses vraiment, vraiment futiles. En fait, on peut se poser la question, pourquoi écrire de la fantasy ? Dans un monde en plus qui est en pleine mutation, qui est passionnant, qui est inquiétant, à l'époque de la révolution numérique, à l'époque où un certain nombre d'États de l'Orient ou musulmans connaissent des troubles graves, à l'époque où en Europe aussi on est agité par toute une série de problématiques politiques, sociales, pourquoi écrire des histoires d'elfes, de nains ? J'en passe des meilleurs, c'est pas très sérieux tout ça. Le but qu'il y a derrière tout cela, écrire de la fantaisie, c'est en fait procurer de l'enchantement, générer de l'enchantement. Et ça n'est pas moi qui le dis. Là, je me fais le porte-parole de l'écrivain qui a donné sa popularité à la fantaisie au cours du XXe siècle, c'est-à-dire que je donne la parole à Tolkien. Et je vais pas mal m'appuyer sur l'œuvre de Tolkien, mais pas son œuvre romanesque, mais un pan de son œuvre qui est moins connu, qui est son œuvre critique, puisque Tolkien a aussi réfléchi sur le conte, et en réfléchissant sur le conte, en fait, même s'il prétendait réfléchir sur le conte de fées, il réfléchissait sur son œuvre d'auteur de fantasy. Pour Tolkien, donc, le but de la fantasy, c'est de générer de l'enchantement. Et en fait, il ne se contente pas de citer l'enchantement, il va donner, disons, des recettes, des principes relativement précis pour expliquer comment l'art peut générer l'enchantement. L'enchantement de l'auteur, bien sûr, parce qu'il était le premier concerné, hein, il écrivait pour s'enchanter lui-même, mais aussi l'enchantement du public. Alors, c'est ce que je vais essayer tout d'abord d'aborder. Quels sont les principes qui, moi, me semblent très, très parlants dans ce qu'il expose ? Eh bien, il dit que l'enchantement génère de l'évasion. Et puis, il parvient à l'enchantement et à l'évasion par une écriture mythopoétique. Et donc, je vais essayer, sans être trop ennuyeux, de développer un peu tout ça. Ça permet en tout cas de comprendre pourquoi il a obtenu un succès que lui-même estimait complètement inattendu, et un succès qui a été tellement conséquent qu'ensuite, des maisons d'édition se sont spécialisées en fantasy. Ça n'existait pas avant. Il existait bien sûr de la fantasy. La fantasy est créée probablement au XIXe siècle par des auteurs anglo-saxons, mais il n'existait pas de maisons d'édition spécialisées. Or, actuellement, à Épinal, sous la bulle du livre, on a quantité d'éditeurs spécialisés. Ça permet aussi de comprendre pourquoi la fantasy est un tel succès populaire, qui dépasse très largement simplement le goût pour la littérature d'évasion, mais qui déborde sur d'autres champs de la culture populaire. Hein, je pense aux jeux, je pense au cinéma, et même à des champs beaucoup plus inattendus que j'aborderai par la suite. On commence à voir la politique contaminé par la fantaisie. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la fantaisie est vraiment en train de faire tache d'huile dans des domaines du champ culturel, social et politique de plus en plus étendus. Pourquoi ? Probablement en raison de cet enchantement qui fait tellement défaut dans ce monde en crise, mais c'est un peu normal, le monde est tout le temps en crise quand on s'intéresse à l'histoire, de toute manière on passe d'une crise à l'autre. Mais on a besoin donc de créer de nouvelles formes d'enchantement, et la fantasy est un des champs qui procure cet enchantement. Alors je vais d'abord revenir sur l'enchantement selon Tolkien. Quand est-ce que Tolkien parle de l'enchantement ? Il écrit pendant 10 ans le roman qu'il a fait connaître, hein, Le Seigneur des Anneaux, entre 1937 et 1948. Et en fait, il écrit ce roman sans savoir où il va, parce que c'est une commande de son éditeur, il n'a aucun thème, c'est son éditeur qui veut qu'il reprenne ses personnages de Hobbit de son roman précédent, le Hobbit, et il pensait avoir terminé son histoire. Donc il tâtonne. Et il tâtonne dans sa façon d'écrire le roman, ça je ne vais pas y revenir, mais il tâtonne aussi dans sa façon de réfléchir sur la matière qu'il est en train de traiter. Et il va réfléchir en particulier sur le conte de fées. Alors je risque d'être un petit peu redondant peut-être avec l'intervention précédente, mais en tout cas, donc en 1939, il va donner une conférence du conte de fées, où il réfléchit sur le conte de fées. Alors il réfléchit beaucoup sur le corpus du conte de fées anglais, mais en fait, derrière les exemples qu'il va prendre, il réfléchit aussi sur le roman qu'il est en train d'écrire. Alors, c'est une conférence qu'il va donner à l'Université Saint-Andrews en 1939, qu'il va publier ensuite en 1947, hein, sous le titre du Conte de Fées. Je ne vais pas paraphraser hein, Tolkien, je vais retenir simplement quelques éléments qu'il nous donne sur ce qui génère l'enchantement. Donc, pour lui, le Conte de Fées provoque de l'enchantement. Qu'est-ce qui enchante ? C'est ce qu'il appelle la créance secondaire. La créance, il faut l'entendre au sens de croyance, c'est-à-dire le fait que le public, quand il est confronté à l'univers fictif, croit en l'existence de cet univers. Il s'appuie sur une notion qu'il rejette, la suspension volontaire d'incrédulité, qui est une notion déjà créée par un poète anglais, Coleridge, un siècle plus tôt, mais il affirme que l'enchantement réel du conte de fées n'est pas une suspension volontaire d'incrédulité. La suspension volontaire d'incrédulité, ça implique que le lecteur ou l'auditeur d'un conte ou d'un roman accepte le temps de la lecture de considérer que ce qu'on lui raconte est vrai, même s'il sait pertinemment qu'il s'agit d'une fiction. On a la même notion dans la critique française. Il y a un critique français, Philippe Jejeune, qui parle du pacte de lecture entre le romancier et le lecteur. Le romancier fait en sorte que son roman paraisse crédible, et le lecteur, en contrepartie, même inconsciemment, considère le temps de la lecture que ce qu'on lui raconte est vrai. même s'il n'est pas dupe, bien sûr, de la fiction. C'est la même notion, en fait. Tolkien lui dit que la suspension volontaire d'incrédulité, quand elle intervient chez le lecteur, elle est déjà la marque d'un échec de l'art du conteur ou du romancier. Il faut que le romancier ou le conteur capte son public, en sorte qu'il n'y ait même pas cet effort à faire de la part du public, mais que le public soit, au sens propre, enchanté, c'est-à-dire sous le charme du chant, sous le charme du récit. Alors, et c'est cela qui permet de pénétrer dans le monde secondaire, c'est-à-dire dans le monde de la fiction. Donc un monde autre que notre monde. Automatiquement, cela génère de l'évasion, puisque le conte de fées va créer un monde secondaire. Si le romancier ou le conteur a un art qui est suffisamment élaboré pour capter le lecteur, il y a un monde autre qui est créé et qui va prendre place dans l'imaginaire, dans la psyché du public. Tolkien affirme que l'évasion est souvent perçue comme un phénomène assez déprécié. La littérature d'évasion serait une sous-littérature. Et il réfute le fait que l'évasion en art soit une forme d'art secondaire déprécié. Il dit, alors je ne suis pas très clair, je vais reformuler ça différemment. En substance, il dit que l'évasion, s'évader de ce monde dans lequel on rencontre un certain nombre de problèmes pour gagner un monde fictif qui nous apporte un certain nombre de satisfactions et d'enchantements, ce n'est pas une fuite hors du réel. Et c'est souvent comme cela que ce type de littérature est perçu. C'est bel et bien une évasion. Il affirme que l'évasion peut être perçue comme héroïque. L'évasion du prisonnier qui cherche à sortir de sa prison, elle est valorisée. Pourquoi l'évasion du lecteur qui chercherait un moment à échapper à ses problèmes, à la prison de la contingence, pourrait-on dire, pourquoi est-ce que cette évasion serait dépréciée? Elle est tout aussi noble. Donc il s'agit de chercher une évasion, mais une évasion qui permette non pas de fuir ses problèmes, mais de se soustraire à ses problèmes. Parce que l'autre but de cet enchantement de la fantaisie, ça n'est pas de fuir hors du monde, mais de recouvrer le monde. C'est-à-dire, une fois qu'on a traversé l'enchantement, qui est une expérience réparatrice, Tolkien parle de consolation. On peut revenir au monde réel en étant rasséréné, plus fort. Si j'emploie un terme plus moderne, qui est très à la mode actuellement, l'enchantement du conte de la fantaisie apporterait une forme de résilience et donc rendrait ensuite plus fort, plus apte à affronter le monde avec ses problèmes, ses difficultés. Alors, c'est deux points très très importants pour lui. L'enchantement de la fantaisie apporte consolation, donc on pourrait dire résilience, et par conséquent, recouvrement du monde. Ça va à l'inverse des critiques qui sont souvent faites vis-à-vis de la littérature de fantasy, mais aussi vis-à-vis du jeu, etc., qu'on considère souvent comme un facteur de déréalisation, de perte de repères avec le réel. Tolkien dit au contraire que c'est simplement un détour qui permet ensuite de revenir au réel. Alors, il le dit dans une conférence, et puis ensuite il illustrera dans un conte que les Tolkien-dili, c'est-à-dire les amateurs de Tolkien, connaissent en général, un conte qu'il écrit dans les années 1940, qui est Feuille de Nigel. Dans les années 1940, Tolkien travaille toujours sur Le Seigneur des Anneaux. Alors, il s'appuie sur ce travail parce que parallèlement il a sa carrière universitaire, il est engagé dans la défense civile au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça lui prend aussi ses nuits. Il se fait du souci pour ses fils qui sont mobilisés. Tout ça, ça lui fait une existence très chargée. Et en fait, il a une panne d'inspiration pendant un an au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il n'écrit plus du tout sur Le Seigneur des Anneaux. Et il a, en 1944, une espèce de fulgurance il a au réveil un petit conte qu'il va écrire d'une seule traite, ce qui n'est absolument pas ordinaire dans sa façon de composer. C'est quelqu'un qui retravaille beaucoup ses textes, souvent d'ailleurs qu'il les abandonne avant de les avoir terminés. Là, il l'écrit d'une traite, et en fait, ce conte, c'est la métaphore de cette faculté à la consolation, à la résilience que procure le monde secondaire du conte. Pour résumer Feuille de Nigel, Nigel est un peintre pas très bon, médiocre, qui a décidé de peindre une belle feuille, puis qui se met à peindre l'arbre sur lequel a poussé la feuille, puis qui se met à peindre la forêt, et en fait il ne parvient jamais à terminer sa peinture. Il se perd dans les détails. Nigel signifie fignoler, il fait du fignolage. Et puis il est interrompu sans arrêt, il est interrompu par son voisin qui est un peu infirme, qui lui demande sans arrêt des services, qui est assez désagréable avec lui, qui s'appelle Parrish. Puis il est interrompu aussi par une administration qui fait un peu penser à l'administration des pays en guerre, hein, qui sont très vétilleuses, qui lui demandent sans arrêt un certain nombre de corvées. Et en plus, il y a un voyage mystérieux que Nigel doit faire. L'échéance de ce voyage se rapproche, il craint de ne pas pouvoir terminer son tableau, et c'est vraiment ce qui arrive. Il est convoqué, il doit partir en voyage. Et puis il est convoqué dans un centre un peu étrange. Alors, Feuille de Nigel, c'est une métaphore en fait de la mort et du purgatoire. Hein. Nigel va passer par un purgatoire qui ressemble un peu à un hôpital ou à un centre de tri. Et au terme d'une espèce de rééducation, il retrouve son voisin désagréable qui s'est amendé. Ils partent en voyage et ils arrivent dans un pays où se trouve l'arbre achevé et la forêt achevée. Et ils vont tous les deux réconcilier, y construire une maison, y séjourner quelque temps avant de partir. Alors, Tolkien est un auteur profondément catholique, il y a bien sûr une métaphore religieuse derrière tout cela qui est nette, mais par ailleurs, une fois que Nigel et son voisin Parrish quittent l'arbre et la forêt peint par Nigel, d'autres convalescents vont se rendre dans cet endroit et profiter du bel arbre et de la forêt peint par Nigel. Et en fait, ce conte, c'est la métaphore de ce à quoi aspire Tolkien. Son roman, c'est cet arbre et cette forêt qu'il ne parvient pas à terminer. Et ce à quoi il aspire, c'est qu'une fois qu'il l'aura terminé, une fois qu'il aura goûté l'enchantement de l'œuvre achevée, d'autres viendront aussi goûter cet enchantement et y trouveront réparation. C'est donc la métaphore de ce qu'il exposait dans sa conférence en 1939. Alors, si on s'intéresse rapidement à la vie de Tolkien, on se rend compte que son goût pour l'évasion a manifestement eu de grandes facultés réparatrices dans sa vie, en particulier dans sa jeunesse. Hein. Tolkien est orphelin de père à 4 ans, il est orphelin de mère à 12 ans. De surcroît, il est en très mauvais terme avec sa famille parce que sa mère s'est convertie au catholicisme dans une Angleterre très anglicane. En conséquence, il va passer une adolescence à la Dickens. Hein. Il a eu une enfance, tant que sa mère était en vie, qui était une enfance rurale, champêtre, heureuse. Quand il devient orphelin, il se retrouve sans le sou à vivre à Birmingham, en pleine ville industrielle. Dans un cadre de vie qui est sinistre, il n'en va pas moins poursuivre ses études. Il fait des études à Oxford, il termine ses études pour partir sur le front, il participe à la bataille de la Somme, expérience terrible bien sûr, en 1916, hein, où à peu près les deux tiers de son régiment sont décimés pendant les quelques mois qu'il passe sur le front. Au cours de la Première Guerre mondiale, il va perdre deux de ses meilleurs amis qui sont tués. Lui-même échappe probablement à la mort parce qu'il attrape la fièvre des tranchées, mais il en revient avec des traumatismes très forts. Or, c'est précisément quand il est à l'hôpital de retour du front qu'il se met à écrire de la fantaisie. Et il va ensuite mener une carrière universitaire brillante, une vie familiale très réussie, il va épouser la femme qu'il aime, dont il avait été séparé, qu'il va retrouver. Il aura des enfants, c'est un père de famille aimant. Bref, il va avoir une vie extrêmement équilibrée, très chargée, comme s'il avait trouvé, en quelque sorte, une réparation de ses traumas juvéniles, dans l'expression d'un imaginaire qui lui apportait de l'enchantement. Donc on peut voir vraiment dans la vie même de Tolkien les facultés réparatrices de la fantaisie, alors que à Oxford, puisqu'il a été professeur à Oxford, La plupart de ses collègues, pas tous, hein, il avait un de ses amis, C.S. Lewis, qui écrivait comme lui de la fantaisie, qui admirait ce que faisait Tolkien, mais la plupart de ses collègues se demandaient pourquoi le professeur Tolkien écrivait ces histoires d'elfes et de nains. C'était grotesque, il avait des choses beaucoup plus importantes à faire, à commencer par des publications scientifiques. Donc, malgré tout, cette évasion lui a permis de recouvrir le monde, de faire une belle carrière, d'avoir une grande famille, et en définitive d'être décoré par la reine Elisabeth à la fin de sa vie. Alors, comment fonctionne cet enchantement ? Dans une deuxième étape, je voudrais essayer de rentrer dans les ficelles de l'art de Tolkien. Et c'est là où on va aborder l'écriture mythopoétique. Quand il se met à écrire, il compose dans les années 1930 un poème à la suite d'une conversation qu'il a eue avec son ami universitaire, hein, Clive Staple Lewis. Lewis, à l'époque, rejette les mythes. Tolkien défend les mythes. Ils ont une conversation, tous les deux, et puis Tolkien écrit un poème qui s'intitule « Mythopoeia ». En grec, la création du mythe. Dans ce poème, il prend le nom de Philomythus, celui qui aime le mythe, qui converse avec Lewis, qu'il appelle Mysomythus, celui qui dit « n'aime pas les mythes ». Et il affirme très clairement qu'il aime les mythes. Il veut être un passeur de mythes, parce que pour lui, le mythe, même lorsqu'il semble raconter des histoires complètement fantasques, le mythe apporte toujours une vérité. Il délivre une vérité. Alors, comme c'est un auteur catholique, il pense, lui, à une vérité religieuse. Il pense qu'il y a sans doute une forme de révélation qui s'exprime à travers le mythe. Mais on peut aussi interpréter sa position en pensant que le mythe véhicule une vérité anthropologique. Pas une vérité factuelle, pas une vérité scientifique, mais quelque chose qui correspond à un inconscient que les hommes partageraient. Raison pour laquelle il trouve que le mythe est important, que le mythe doit être défendu. Et à cette époque, il se désole du fait que l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne. Il se désole du fait que l'Angleterre n'ait pas de mythologie propre. Il y a bien sûr la matière de Bretagne, mais la matière de Bretagne, c'est une mythologie celtique. Mais ça n'est pas une mythologie anglaise. Et il rêve de construire une mythologie anglaise. Comment s'y prend-il ? Il y a trois axes dans son écriture mythopoétique. Premièrement, il y a un principe qui est très important pour lui. Alors, c'est un philologue, c'est-à-dire c'est un spécialiste des langues. C'est quelqu'un qui parle quantité de langues, et c'est tout par ailleurs. Bon, il parle bien sûr des langues anciennes, hein, latin, grec, il parle certaines langues vivantes, il pratique un peu le français, même si il n'appréciait pas beaucoup les français, mais ça c'est un trait de caractère très britannique. Mais c'est un spécialiste des langues anglo-saxonnes et germaniques. Et il a quelques connaissances aussi en hébreu, il a quelques connaissances dans le domaine des langues celtiques. Mais c'est surtout un spécialiste du vieil anglais, des dialectes anglais, un spécialiste du norrois, donc des anciennes langues germaniques. C'est un médiéviste. C'est quelqu'un qui fait des cours sur la littérature nordique, donc en particulier toutes les littératures scandinaves, en particulier sur la littérature islandaise, et puis sur les littératures anglo-normandes, hein, et surtout sur la littérature anglaise ancienne. C'est un spécialiste de l'épopée Beowulf. N'ayant toujours une réflexion qui est finalement une réflexion très linguistique sur les textes qu'il étudie, il affirme que le mythe n'est pas le produit du langage, mais que le mythe est consubstantiel au langage. C'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que d'abord on parle, et qu'ensuite, parce qu'on parle, on raconte des histoires, et donc on invente des mythes. Il dit qu'à partir du moment où on parle, à partir du moment où on a la faculté de combiner un nom avec un adjectif, un sujet avec un verbe, des compléments. Automatiquement, dès qu'on parle, on raconte des histoires. Et donc, le simple fait de s'exprimer est mythopoétique. Ce qui expliquerait la grande prégnance des mythes sur toute l'humanité, ça signifierait qu'en fait, tout le monde pratique, à un niveau plus ou moins développé ou embryonnaire, la création de mythes ou la transmission du mythe. D'où l'écho que le mythe rencontrerait chez tout un chacun. Donc, c'est un premier point. Ce qui fait qu'il travaille toujours en accordant une importance extrême à la langue. Et c'est un créateur de langue fictive. Parce qu'il veut créer des outils. Enfin, plus exactement, c'est dans le sens inverse. Il crée des langues et il se dit que parce que la langue est porteuse de mythes, automatiquement, avec les langues fictives qu'il invente, qui sont inspirées des langues qu'il pratique, il lui faut des mythes qui sont véhiculés par ces langues. D'où sa création des différentes peuplades elfiques qu'on va trouver dans son œuvre, dans le Silmarillion, dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a automatiquement une association entre la création de la langue fictive et d'une mythologie fictive. Deuxième principe de l'écriture mythopoétique de Tolkien, Tolkien est quelqu'un qui connaît très bien les différentes mythologies, en particulier bien sûr la mythologie classique, mais aussi les mythologies nordiques, et il réécrit des mythes. Alors, grâce à son fils Christopher Tolkien, qui a édité après la mort de Tolkien une grande partie de son œuvre qui était restée impubliée, on sait que dans les années 30, Tolkien a réécrit le mythe de Sigurd et Gudrun, c'est-à-dire le mythe de Siegfried. On sait également qu'il avait commencé une réécriture du sujet du morté d'Arthur, hein, c'est-à-dire de la fin d'Arthur, hein, la chute d'Arthur. Non seulement il réécrit ses mythes anciens, mais ce qui est très intéressant, puisque pour lui le mythe est toujours lié au langage, il les réécrit en anglais moderne, certes, mais avec une forme poétique médiévale, des formes poétiques anciennes et anglaises, c'est-à-dire dans une poésie allitérative. Donc il essaye de retrouver des formes littéraires anciennes pour produire une variation moderne du mythe. Et en ce sens, il travaille à la fois sur la langue, sur le style et sur des mythes anciens. Et puis dans un troisième temps, dans la mesure où il a une excellente connaissance et du style et de ses mythes anciens, il se met à produire ses propres mythes privés. Ceux qui accompagnent les langues fictives, hein, Quenya, le Sindarin, etc., qu'il va créer. Mais les mythes qui sont des pures fictions personnelles qu'il crée sont littéralement nourris par sa connaissance des mythes historiques et puis par sa connaissance du fonctionnement des langues anciennes et des poésies anciennes. Par conséquent, ça va créer une impression de profondeur pour les lecteurs quand on s'intéresse à ces romans de la Terre du Milieu, et c'est ça qui va sans doute générer l'enchantement. Si j'en reviens à ce qu'on évoquait précédemment, la fantaisie crée un monde secondaire. Tolkien, pour donner de la consistance à ce monde secondaire, remonte très loin dans la création du mythe, dans la mythogenèse, puisqu'il va s'inspirer de mythes existants, s'inspirer de formes littéraires existantes, se familiariser en les réécrivant avec ses différentes pratiques, avant de créer sa propre fiction. Et c'est ça qui donne une impression de consistance, d'épaisseur extrêmement importante. Dernier point, dans sa composition mythopoétique, quand Tolkien écrit, il est complètement désorganisé. Il a ses cours à faire, il a sa vie de famille qui lui prend du temps, il a ses amis qui lui prennent énormément de temps, hein, ses séances au pub qui sont très importantes. Et du coup, il a du mal à terminer ce qu'il écrit. Par conséquent, il se lance dans des projets souvent ambitieux, il les mène parfois très loin, et puis il s'interrompt. Il a des remords, il y revient, mais quand il y revient, il recommence du départ. Et quand il reprend ses anciens textes, il ne les considère plus comme des brouillons. Il les considère en philologue, c'est-à-dire en professeur d'université, qui se penche sur des sources. Donc, il ne corrige pas ce qu'il a déjà écrit. Quand il y a des contradictions entre la première version et la deuxième version, il se pose la question: pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction? C'est-à-dire qu'il agit en partie en écrivain, en partie en philologue, confronté à différentes versions d'une même œuvre. Et en ce sens, il est en train de composer une œuvre mythopoétique, parce que le propre des mythes dans nos cultures, c'est d'avoir différentes variantes. Des variantes parfois contradictoires, donc qui posent problème, mais qui montrent bien, en fait, que le mythe est souvent le fruit d'une élaboration collective, c'est le fruit d'une élaboration communautaire, c'est le fruit d'une élaboration aussi historique et stratifiée. Lui, en tant qu'auteur individuel, il se met à fonctionner, en raison de sa façon d'écrire, comme une communauté. Et dans la mesure où il revient sur des projets anciens, finalement, sa vie va donner cette espèce de discontinuité historique dans la création du mythe. Donc c'est en ce sens aussi qu'il y a vraiment un fonctionnement mythopoétique dans l'écriture de Tolkien. Tolkien à lui tout seul, alors c'est épuisant, hein. C'est épuisant pour lui. Et ça, on comprend dans ces conditions pourquoi, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman qui met 10 ans à écrire. Parce qu'il y a plusieurs versions. Hein. Et des versions qui sont vraiment contradictoires. Hein. Mais en tout cas, à lui tout seul, il va recréer cette dynamique mythopoétique. Alors, avec un temps de retard, puisqu'en fait, il aura du succès, en fait, il a un certain succès au moment de la publication du Seigneur des Anneaux au milieu des années 50, mais c'est 10 ans après, avec la réception du roman par le public américain, qu'il y a vraiment eu un très très grand succès qui va faire tache d'huile, hein, sur le monde entier. Ce succès éclatant va inspirer un certain nombre de lecteurs enchantés littéralement par Tolkien. Il y a des interviews de l'auteur du Trône de Fer, hein, George Martin, hein, qui dit que il avait une dizaine d'années quand Le Seigneur des Anneaux est paru, et qu'en fait, Le Seigneur des Anneaux, oui, l'a enchanté, que c'était la publication des tomes suivants, hein, puisqu'il a eu la chance de lire Le Seigneur des Anneaux aux USA dans les années 60, et il a attendu avec une impatience terrible la publication des tomes suivants, parce qu'il avait été vraiment capté. Et du coup, ces lecteurs qui sont captés, alors c'est mon cas aussi, hein, je suis écrivain de fantasy parce que j'ai lu Tolkien et que j'étais enchanté. Hein. Ces écrivains qui sont captés ont essayé, à mon avis plus ou moins bien, et je m'inclus dans le plus ou moins, ont essayé de comprendre le fonctionnement de l'écriture de Tolkien pour écrire leur œuvre. Alors il y a des imitations, soit au niveau, alors pendant des années c'était des imitations au niveau du format, la trilogie, et j'ai pêché moi aussi, ce qu'on appelle donc le world building, la construction du monde avec la carte. Avant Tolkien, on ne publiait jamais un roman avec une carte. Depuis Tolkien, quand on écrit de la fantasy, il faut publier des cartes. J'ai l'outrecuidance de publier des romans de fantasy sans cartes. Il faut voir le nombre de doléances que j'ai suis de la part de mes lecteurs. Mais on comprend pas bien où c'est, on se situe pas bien, avec une carte ce serait plus clair, etc. C'est le modèle tolkienien. Donc il s'agit de reprendre la recette de Tolkien. La question, alors là, je me suis efforcé d'expliquer comment Tolkien avait procédé pour générer cette écriture mythopoétique. Ça a fonctionné. Pourquoi? Alors là, j'ai des hypothèses aussi. Parce qu'après tout, ça aurait pu ne pas fonctionner. Tolkien pensait que ça ne fonctionnerait pas. Il est effaré dans les années 60-70 quand il reçoit des coups de fil de fans américains. D'autant plus que souvent, ces fans américains ne font pas attention au décalage horaire et téléphonent à Tolkien à 3 ou 4 heures du matin. En tout cas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il avait une approche qui était une approche de philologue, une approche universitaire. Et même si lui-même pensait à l'enchantement, il n'avait pas mesuré l'impact que son œuvre aurait sur un large public. Pourquoi un tel impact? À mon avis, c'est parce que Tolkien, justement, a renoué avec une méthode de composition très ancienne du roman. Il n'a pas écrit un roman moderne. Il lisait des romans contemporains. Il prétendait ne pas en lire, en fait, il en lisait. Mais il avait une très très nette préférence pour les textes médiévaux. Le roman tel qu'il est conçu à l'origine au Moyen-Âge n'a pas du tout la même fonction que le roman tel qu'on le conçoit de nos jours. En fait, si on veut parler du roman actuel, le roman actuel, il est perçu comme une espèce de fenêtre sur le monde. Il s'agit, à travers le roman, d'avoir une expérience, de partager l'expérience du romancier, et puis d'avoir une forme de documentation subjective sur le monde. C'est très souvent le cas. Alors, ça peut être une documentation très subjective avec l'autofiction, ça peut être du roman social, même le roman policier, finalement, quand c'est du roman noir, c'est quelque part du roman social, il s'agit d'explorer le monde. Bref, le roman est souvent perçu comme une fenêtre sur le monde, et c'est ce qui lui donnerait ses lettres de noblesse. D'où cette conception vient-elle ? Elle vient du XVIIIe et du XIXe siècle, quand le roman était très mal perçu, les genres nobles, c'était le théâtre, la poésie, les maximes, le roman, c'était, excusez-moi mesdames, de la littérature pour filles. À tel point d'ailleurs que quand on était romancier au XVIIe ou XVIIIe siècle, parfois on n'osait pas signer son roman, c'était vraiment trop mal vu. Il a fallu trouver des lettres de noblesse et donner un vernis de crédibilité documentaire, réaliste, voire scientifique avec le naturalisme au roman. C'est pas du tout le cas au Moyen Âge. Le roman, ça vient tout simplement de la langue romane. C'est un mot qui apparaît en France, en tout cas, en même temps que l'art roman. Le but du roman à l'origine, c'est de diffuser auprès du public qui ne sait pas lire et écrire et qui ne parle pas latin, des connaissances auxquelles il n'a pas accès. Alors, ce public, à l'origine, c'est l'aristocratie, mais c'est aussi la bourgeoisie, le peuple. On va donc lui offrir des histoires, mais on ne va pas lui traduire des textes anciens. Donc on va lui offrir des histoires divertissantes, mais qui ont un but pédagogique, culturel, civilisationnel ou propagandiste. La reine Aliénor d'Aquitaine est une grande protectrice d'écrivains, tout simplement parce qu'elle a envie de civiliser la cour de ses différents maris, sachant que la noblesse au début du XIIe siècle est encore très rugueuse. Et à travers le roman, on va faire passer le modèle courtois, les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde sont sans arrêt en train de secourir des jeunes filles. Et c'est pour donner le bon exemple aux membres de la noblesse qui vont souvent enlever des jeunes filles. Aliénor d'Aquitaine elle-même, après son divorce, à 2 mois de battement entre son divorce avec Louis VII et son mariage avec Henri de Plantagenet, dans l'intervalle, elle subit 2 tentatives de kidnapping, dont une par un Plantagenet, par le frère de son fiancé, dans le but de l'épouser. On est donc dans une société rugueuse, et le roman va servir, comme le théâtre au XVIIe siècle finalement, va servir à essayer de diffuser des valeurs auprès du public. Alors, pour que le public adopte ces valeurs, il faut que les histoires racontées soient très séduisantes. Donc il faut les chevaliers de la table ronde, il faut Alexandre le Grand, il faut Jules César, il faut des histoires très séduisantes. Et il se produit alors un phénomène qui est décrit par quelques critiques contemporains et en particulier qui est évoqué par Michel Pastoureau dans son Histoire symbolique du Moyen-Âge. Il se produit un phénomène qu'on appelle en ancien français l'enromancement. Qu'est-ce que c'est que l'enromancement ? C'est exactement l'inverse de la conception qu'on se fait actuellement du roman. De nos jours, le roman disons de littérature générale, doit être le reflet du monde. Au Moyen-Âge, l'enromancement, c'est le monde qui se met à refléter les romans. En d'autres termes, c'est la population qui va imiter les héros de romans, qui va jouer les héros de romans. Et ça a une influence majeure sur une très large partie de la population occidentale à partir du XIIe siècle, on peut même dire un peu plus tôt. On en a des exemples à de multiples niveaux. Premier exemple, on sait depuis maintenant quelques dizaines d'années que les romans de la table ronde ont été diffusés oralement avant d'être posés par écrit. Pourquoi ? Parce que quand on se penche sur les registres paroissiaux, on découvre qu'à partir de la fin du XIe siècle, il y a dans les noms de baptême une explosion de noms de chevaliers de la table ronde. Ce qui signifie, et ce, pas seulement au sein de la noblesse, mais aussi au sein du peuple, ce qui signifie que ces récits étaient en train de se diffuser et que le rembancement était en train de prendre, puisqu'on allait nommer ces enfants en leur donnant des noms qui n'étaient pas des noms chrétiens, mais qui étaient des noms romanesques. Et on voulait donner à ces enfants les vertus du héros de roman. On a des pratiques documentées et plus spectaculaires. La noblesse se met à imiter les héros de romans. Le roi Édouard II d'Angleterre tient au XIIIe siècle des tables rondes, pas dans le sens de la réunionnite actuelle, mais des tables rondes réelles, où il convoque ses nobles comme le roi Arthur, il se fait construire une table ronde, et il y a une cérémonie où on endosse le rôle des chevaliers de la table ronde. Et le but, il est à la fois ludique, mais il est aussi politique. Il s'agit de souder la noblesse autour de son roi, sur le modèle de la chevalerie arthurienne autour du roi Arthur. Donc le roman va devenir en quelque sorte un outil d'identification, de propagande civilisationnelle. Alors, au sein de la noblesse française en particulier, ça va avoir un succès extraordinaire. Hein. Le roi Louis VII au XIIe siècle, pas le roi Louis VII, hein, mais le roi Louis le Gros, c'est Louis VI, est un monstre de vulgarité. On va avoir ensuite des monarques et une cour de plus en plus raffinée, qui explique en grande partie d'ailleurs les désastres de la guerre de Cent Ans. Il faut contracter. Très vite, alors très vite. Je reviens à la fantaisie et à le romancement. Tolkien, en fait, il recrée cet enromancement qui se manifeste sous des formes modernes de différentes façons. On se met à jouer les romans de Tolkien. On se met à les jouer dans le jeu de rôle. J'en sais quelque chose, je pratique. On se met à jouer dans le jeu vidéo. Et même des jeux vidéo qui sont déconnectés de l'univers premier de la Terre du Milieu de Tolkien, en fait, sont souvent en connexion avec la fantasy. Ça devient donc un facteur de lien culturel et de lien social, comme le roman médiéval. C'est un facteur de lien. C'est-à-dire que ça soude une communauté, la preuve avec un festival comme les Imaginales. Et de la même façon qu'au XIIIe siècle, le pouvoir politique récupérait le roman pour en faire de la cohésion politique et sociale, eh bien on voit le même phénomène qui commence à apparaître. Je vous invite à aller sur la page internet du gouvernement. Je vous invite à aller sur la page internet du gouvernement et vous cherchez la lettre aux familles nobles des sept royaumes. Vous tomberez sur une page enluminée qui pastiche une enluminure médiévale qui reprend un certain nombre de codes de fantasy pour présenter quoi ? Pour présenter les grandes réformes du gouvernement. Et ensuite, quand on clique sur chacune de ces grandes réformes, sur la belle page enluminée, on retourne sur des pages très sérieuses du ministère, enfin du gouvernement. Donc, on est en train d'assister à un phénomène un petit peu semblable, comme la fantaisie est devenue un phénomène extrêmement populaire, qu'elle a enchanté, et que nous sommes dans un monde qui est désenchanté pour des raisons sociales, politiques, économiques, etc. Comme chez nos politiques, on lit de la fantaisie. Moi, j'ai reçu des lettres de lecteurs postées à l'Assemblée nationale. Donc, les politiques reprennent ce vieux principe. La fantaisie enchante le monde, c'est un facteur de cohésion, ça peut être un facteur de propagande aussi. Utilisons la fantaisie au service de la politique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus en prise avec ce monde que l'activité politique ?
Passionnant exposé, la parole circule, vous la prenez. Monsieur.
Je voudrais juste dire une chose, c'est que tout cet exposé, qui est très très beau, a un petit défaut, qui est qu'il a utilisé le mot fantaisie à deux sens, l'un britannique, l'autre français. Il a prétendu restreindre à ce que nous, Français, appelons fantaisie, qui a quelque chose de limité, un phénomène qui s'étend en fait à tout ce que les Anglais appellent fantaisie, c'est-à-dire la totalité de l'imaginaire et de la fiction.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même sens en Angleterre et aux États-Unis, où le terme fantasy recouvre toute les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire ça couvrira aussi la science-fiction, ça couvrira le fantastique, alors que nous on a tendance à restreindre, et c'est plutôt dans ce sens-là que je l'utilise, hein, c'est vrai, le terme fantasy pour parler des formes modernes du merveilleux, pour faire court. Hein. Donc oui, c'est tout à fait vrai.
Chez Tolkien, hein. Même tout ce que tu as dit sur l'enromancement s'applique à toutes les formes de fiction.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Monsieur, vous avez dit, j'ai cru comprendre, que les Anglais n'avaient pas de mythologie et qu'ils cherchaient donc à créer une mythologie anglaise. Donc la question est, comment un peuple peut-il exister sans mythologie ?
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Tolkien. Je me réfugie derrière tout ça. Pourquoi est-ce que Tolkien dit ça ? Parce qu'en fait, il enseigne le vieil anglo-saxon. Et il constate que pour les Anglais, en fait, ce qui forme le terreau mythologique anglais, il appartient plutôt à la matière de Bretagne. Donc c'est le roi Arthur. Hein. Beowulf, par exemple, avant qu'il ne soit étudié justement par Tolkien, qui va lui restituer ses lettres de noblesse, il n'appartenait pas à l'imaginaire, ou très peu à l'imaginaire collectif anglais. Et donc il regrettait, dans la mesure où l'histoire de l'Angleterre, c'est une multiplication d'invasions venues du continent avec des couches populaires qui se sont superposées, ce qu'il regrettait, c'est que, puisque lui se définit comme vraiment un anglo-saxon, hein, il y a peu de choses qui aient subsisté de cet imaginaire anglo-saxon. Donc c'est en ce sens-là qu'il disait, et il prenait vraiment le mot anglais au sens premier, c'est-à-dire les Angles, ces Germains qui étaient arrivés avec leur langue germanique et qui s'étaient installés dans l'Angleterre actuelle. Mais bien sûr, il y a, on peut même dire, des mythologies anglaises. Hein, mais c'était vraiment le parti pris anglo-saxon de Tolkien qui s'exprimait à ce moment-là. Et il l'a noté, il est d'ailleurs revenu dessus, c'est dans sa correspondance qu'on trouve ça. Il note à la fin de sa vie, dans sa correspondance, que, étant jeune, il avait projeté d'écrire une mythologie pour l'Angleterre, son pays, qu'il était quand même revenu sur cette idée qui lui semblait trop ambitieuse. Mais à tort, semble-t-il, puisque, en définitive, la Terre du Milieu, elle-même, c'est la traduction de Midengard, c'est-à-dire de la forme anglo-saxonne de Midgard, c'est-à-dire du monde du milieu, hein, qui vient de la mythologie, de toute façon. Donc il a bel et bien, avec la Terre du Milieu, créé une variante mythologique qui remonte aux origines anglo-saxonnes des mythes anglais. Je vous ai assommé, je suis désolé.
Est-ce que, alors, monsieur, le but ultime de l'auteur de fantasy est de ne pas créer une mythologie ?
Je pense que ça dépend des auteurs. Ça dépend des auteurs. C'est quand même extrêmement ambitieux. Tolkien lui-même prétend en définitive ne pas vouloir l'avoir pas fait. Un certain nombre d'auteurs le font. Hein. Alors, est-ce que c'est le but de tout auteur de fantasy ? Je ne pense pas. Alors, je pense que le divertissement est quand même le but principal de 95% des auteurs de fantasy, à commencer par moi-même. Mais on va, je dirais presque automatiquement, à partir du moment où on crée un monde secondaire, reprendre un certain nombre de procédés mythopoétiques. Alors ensuite, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, ça dépend de tout un chacun. Oui, il y a des auteurs qui créent vraiment des mythologies, hein. Je pense à Zelazny par exemple avec le cycle d'Ambre, il y a la création d'un panthéon par exemple, hein. Mais c'est pas valable peut-être pour tous les auteurs. Certains auteurs vont se concentrer sur une petite partie d'un univers fictif et vont se concentrer sur les personnages qui vivent dans cet univers sans pour autant s'intéresser à l'organisation cosmique, religieuse de l'ensemble. C'est assez variable.
Pour citer Dune.
On lève la main, oui. Comme à l'école, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a une dame qui avait levé la main.
Alors, peut-être une vaste question, mais à votre avis, ce phénomène de résilience, sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour pouvoir fonctionner ?
Moi, je ne suis pas trop compétent. J'ai une hypothèse, mais elle ne vaut que qu'est-ce qu'elle vaut. Je suis assez séduit par une idée que j'ai trouvée chez un psychanalyste anglais, Winnicott, qui est un spécialiste en fait de la petite enfance, c'est un pédiatre et psychanalyste, qui s'est beaucoup intéressé au jeu. À la fin de sa vie, il écrit un essai qui s'intitule « Jeu et réalité ». Il y a une idée, alors il s'intéresse essentiellement à la formation de l'enfant, hein, à la relation entre le jeu et l'enfance, mais il y a une idée chez lui qui me séduit beaucoup, qui je trouve fonctionne très bien pour la fantaisie, pour quelqu'un comme Tolkien, mais qui peut fonctionner pour d'autres formes d'art. En gros, Winnicott dit que l'imaginaire du petit enfant commence à se développer avec le phénomène de sevrage quand il est coupé de sa mère et qu'il a besoin d'un objet transitionnel, c'est-à-dire d'un objet qui fait transition entre le sein maternel qui va lui manquer et puis l'autonomie quand il n'aura plus besoin de ce sein maternel. Donc en général, cet objet transitionnel, c'est le doudou, hein, la peluche, etc. Et Winnicott dit que l'enfant va donc commencer à construire une représentation imaginaire sur cet objet, puisqu'il va investir cet objet d'une charge affective qui ne correspond pas à la réalité. Donc c'est l'objet transitionnel qui va créer ce que Winnicott appelle l'espace transitionnel, c'est-à-dire un espace psychique qui est intermédiaire entre la réalité, la mère n'est plus là et l'enfant a un objet en tissu, et puis l'enfant qui a besoin de sa mère. Donc, il va projeter sur le doudou des sentiments, une représentation fantasmatique, etc. Alors ça, c'est pour la base. Winnicott dit que cet espace transitionnel, on peut le garder. On le garde en règle générale. C'est l'espace psychique où se développe l'imaginaire. Et quelqu'un qui va conserver cet espace transitionnel, qui va être en mesure de le développer. Alors pour Winnicott, on le développe dans différentes activités, des activités créatrices, qui peuvent être religieuses, ça colle bien avec Tolkien, il est très croyant, artistiques, et puis intellectuelles et scientifiques. Tous les domaines où on peut avoir de la créativité. Quelqu'un qui parvient à faire partager son espace transitionnel sans l'imposer, et ça c'est important, sans l'imposer, va rencontrer très souvent l'adhésion d'un large public. Je pense que le phénomène de la création du monde secondaire en fantaisie est de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est un espace transitionnel, un espace psychique secondaire que le conteur met à disposition du public. Or, comme à l'origine, cet espace transitionnel, il est conçu comme en fait un espace de consolation. Pour se remettre du premier deuil qui est de la séparation avec la mère, sans doute que la création de ces mondes secondaires continue à générer cette consolation. C'est une approche psychanalytique qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais je pense que là il y a quelque chose qui permet de comprendre pourquoi il est régénérant de lire ces histoires absurdes de d'elfes, de nains, etc.
Dernière question, monsieur, vous voulez prendre la parole?
Bon, je voudrais juste dire que ce qui a été dit pour les romans de type fantaisie au sens français s'applique aussi à des mythologies tirées d'autres romans, que ce soit la comédie humaine de Balzac, que ce soit le mythe de Dune de Frank Herbert, ou les mondes de fondation de
la... Tout à fait. Le caractère mythopoétique ne s'applique pas qu'au merveilleux et à ce qu'on appelle l'imaginaire. Hein. Ça touche énormément de domaines. Tout à fait, oui.
Très bien. Et écoutez, Jean-Philippe Jaworski, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.